Shalom Ouvracha, Shalom le Koulam, Boker Tov à tous et bienvenue pour ce Yom Revi, mercredi, comme toutes les semaines, c'est notre moment d'étude de Parashat Hashavua. Et donc voilà, aujourd'hui, Parashat Lech Lecha. Waouh. Alors je vais vous dire, il y a plein de choses à faire sur cette Parashat, plein de choses à dire. C'est vraiment une Parashat qui regorge d'événements, regorge de choses à traiter. Et évidemment qu'on va pas pouvoir tout traiter en une fois, bien sûr. D'un autre côté, c'est pas plus mal, comme ça, ben moi, ça me donne la possibilité de voir déjà venir l'année prochaine, l'année d'après, pour ne pas recommencer à radoter et à dire les mêmes choses. Donc là, on va s'occuper de ce qui est, à mon sens, ben la première dimension de la paracha de Lech Lecha. C'est la première fois qu'on fait un cours ici sur la chaîne de paracha de Lech Lecha, donc on va commencer par le départ. Et le départ, eh bien, de cette paracha, c'est une question. Une question, à mon sens, qui retentit. La paracha s'ouvre en disant, Vayomer Hashem el Avram, Lech Lecha, Me'atzecha, Me'atzecha, on va revenir sur le verset. Mais, intéressons-nous 2 secondes sur le début. Vayomer Hashem el Avram! Waouh! Comme ça, pouf! On parle quand même du dévoilement de Dieu et pas n'importe quel dévoilement de Dieu. Yud Kevav Ke, le tétragramme. Shem Havaya, qui se dévoile à Avram. Bah, Toda Rava, j'ai envie de te dire, Lama. C'est bien gentil. Mais pourquoi Dieu se dévoile-t-il à Avram? Qu'est-ce qu'il a fait à Avram pour mériter ça? Je veux dire, on parle quand même de ce qui peut être le plus élevé dans le niveau de l'élévation humaine. Dieu qui parle à l'homme. Comment ça se fait que Dieu parle à Abraham? D'où vient ma question? Ma question vient du fait que, de manière très concrète, Abraham, tel qu'il nous est présenté dans la Torah, n'est pas le même Abraham qui nous est présenté dans le Midrash, dans les Midrashim. Quand je pose la question, mais de quel droit? Enfin, pourquoi Dieu se... Pas de quel droit, mais de pourquoi Dieu se dévoile-t-il à Abraham? Ma question, elle vient sur le fait que j'ai vu tout à l'heure dans la paracha de la semaine dernière que Dieu s'est dévoilé à Noar. Mais avant qu'on me dise que Dieu se dévoile à Noar, on me l'a présenté, ce bonhomme. Et on m'a dit, Noar, ish tzadik, tamim haya bedorotav, et ta Elohim, et ta lech Noar. On m'a dit que Noar, c'était un tzadik qui marchait avec Dieu. Donc j'entends qu'on me présente comme Noar comme étant quelqu'un d'extraordinaire, donc Dieu lui parle. J'entends. Mais là, pourquoi Abraham, Dieu lui parle? Je ne sais rien de lui. Je ne sais rien de lui. Le Midrash, les Midrashim sont pleins d'explications qui me font comprendre tout de suite qu'Abraham, c'est le tzaddik ultime. Certes. Mais sauf que là, dans la Torah, c'est pas marqué. Et je dois pouvoir comprendre une chose sans que le Midrash arrive. Après, le Midrash m'aidera à comprendre plus. Mais je dois d'abord comprendre comment c'est possible que Dieu se dévoile à Abraham. Avram, alors qu'il n'a rien fait pour ça, a priori. D'où je connais Avram? D'où vient-il, notre Avram? Eh bien, Rabotai, si on veut découvrir l'identité d'Avram, il faut qu'on revienne à la fin de la paracha de Noar. C'est là-bas qu'on va rencontrer Avram. Et regardez ce que nous dit la fin de la paracha de Noar. Vayechid Terach Shivim Shana. Donc on est au chapitre 11, verset 26. On dit Vayechid Terach Shivim Shana Vayoled et Avram, et Nahor vet Aran. Ok. Terach a 3 enfants. Avram, Nahor et Aran. Vele, et donc c'est la première fois que j'entends parler d'Avram. Vele toldot Terach, Terach olid et Avram, et Nahor vet Aran, va Aran olid et Lot. On dit qu'Aran, il a un fils qui s'appelle Lot. Ok. וימות ארן על פני תרח אביו בארץ מולדתו באור כסדים, ויקח אברהם ונחור להם נשים, שמש את אברהם שרי, ושת אשת נחור מילכה, בת ארן אבי מילכה ואבי יזכה. ותהי שרי הכרה, אין לה ולד. ויקח תרח את אברהם בנו ואת לוט בן ארם בן בנו ואת שרי כלתו, אשת אברהם בנו, ויצאו איתם מאור כסדים ללכת ארצה כנען, ויבואו עד חרן וישבו שם. ומדי כתרח, הפחית אותה פמי, קומפרי אברהם, פרטיס אנסטלה אחרן. Mais Rabotaï, papa, excusez-moi. Mais Rabotaï, pourquoi il n'est nulle part fait mention d'une explication qui me permettrait de comprendre pourquoi Dieu se dévoile à Abraham. Je ne sais pas encore qu'il est le tzaddik qu'il est. Comment se fait-il que Dieu se dévoile à lui ? La seule information que j'ai sur Abraham, c'est sa généalogie. Et en fait, tout doit être recherché là-bas. Pourquoi Dieu se dévoile à Abraham ? Si la Torah me l'avait présenté comme le Midrash, eh bien, on aurait su que c'est un supra-tzaddik. Et donc, tu aurais pu penser que Dieu se dévoile à lui parce qu'il est tzaddik. Ce n'est pas le cas. C'est pas parce qu'il a cherché Dieu, c'est pas marqué dans la Torah. Ça fait partie des explications qui sont amenées dans le Midrash. Et j'ai dit, dans le Midrash, tu sais qu'Abraham, c'est un super tzaddik. Mais dans la Torah, c'est pas marqué. Et donc, si dans la Torah, c'est pas marqué, il faut qu'on essaie de comprendre, alpi à Torah, pourquoi Abraham reçoit le dévoilement divin. Dans la Torah, on connaît sa généalogie. J'ai commencé en parlant de Terah, son père. Mais en fait, on peut remonter un petit peu plus haut. Abraham est tout simplement un descendant direct de Ever. Plus tard dans la paracha, Abraham sera présenté au chapitre 14 comme étant Abraham à Ivri. C'est un hébreu. Alors, évidemment que Rashi nous dit que c'est un hébreu, c'est un Ivri, parce que Wavar est un art, il a traversé le fleuve, il est d'un côté du monde, il est monothéiste, tout le reste est polythéiste. D'accord. Mais d'abord et avant tout, c'est un hébreu parce que c'est un hébreu. Parce qu'il vient de Ever. Abraham n'est pas le premier des Hébreux. Si je puis dire, Abraham est le dernier des Hébreux. Enfin, pas le dernier, mais je veux dire, dans la chaîne de transmission. Le peuple hébraïque, la nation hébraïque, a commencé avec Ever. Abraham est le successeur de cette identité hébraïque. Or, lorsqu'on voit dans la Torah qui est Ever, eh bien, on nous dit qu'il a eu un fils qu'il a appelé Peleg. Nous dit la Torah Lama, qui beyamav niflega à Aretz. Car dans la vie de son fils Peleg, il y aura la tour de Babel. Nous disons ça, Jérachie va rappeler cela. Comment il peut savoir ce qu'il va déjà avoir comme événement dans la vie de son fils qui vient de naître? Et donc cela nous explique que Ever était prophète. Le propre de la nation hébraïque, c'est d'avoir ce contact avec Dieu. Pourquoi la Torah ne m'a pas dit qu'Abraham était un tzaddik, alors qu'il l'est? Pour que tu saches que sa relation avec Dieu ne vient pas du fait qu'il est tzaddik, mais il vient d'abord du fait qu'il a une identité, qu'il est l'héritier des Hébreux. Et c'est à cette identité-là qu'Akadosh Baruch Hu a décidé de se dévoiler. Lama. Tout simplement parce que quand on lit la Torah, Ever est le descendant direct de Shem, qui lui est le descendant direct, en termes pas seulement biologiques, mais en termes de ce qu'il représente, de Noach, qui lui-même était le descendant de Adam, et ainsi de suite. Donc la première chose que j'apprends sur Abraham, c'est d'où il vient. Il fait partie de la famille hébraïque, mais en fait, cette famille hébraïque nous est présentée dans la Torah comme étant très intéressante. Tout d'abord, ils sont à Ur Kasdim. On nous les présente comme étant à Ur Kasdim. Il y a fait, pourquoi pas? Mais ils ne sont pas chez eux. C'est pas chez eux. La preuve, c'est que cet endroit s'appelle Ur, chez la Kasdim. C'est Ur en Chaldée, en Mésopotamie intérieure. C'est-à-dire que, dans tous les cas, c'est pas la famille d'Abraham qui est le patron à Ur Kasdim. Quel est le pays d'Abraham? Quelle est la terre des Hébreux? Mais en retard, la terre des Hébreux, c'est marqué noir sur blanc dans la Torah. C'est la terre d'Israël. La terre des Hébreux, c'est la terre d'Israël. Où c'est marqué dans la Torah? Pachout. C'est marqué dans la fin du livre de Bereshit. Lorsque dans la paracha de Vayigash, Yosef est en prison chez les Égyptiens, il demande au grand échanson de toucher un mot pour lui auprès de Pharaon et il lui dit, dis-lui chez Gunov Gunavti Gunov Gunavti Me'eretz Ivrim. Gunov Gunavti, j'ai été kidnappé de la terre des Hébreux. Maintenant, tu comprends bien que Yosef, quand il parle les chansons, c'est Stam, un non-juif, il ne connaît pas toute la Torah, les chansons, et Pharaon encore moins. Donc, si tu veux, il ne va pas lui parler en code. On ne va pas commencer à appeler la terre d'Israël Eretz Ivrim parce qu'il y a Yaakov et 12 enfants qui habitent là-bas. Si on parle au niveau international que cet endroit est Eretz Ivrim, c'est parce que c'était connu de tout temps que cette terre-là était Eretz Ivrim. C'est ce que veut dire d'ailleurs au début de la paracha quand on dit « Va Kenaani, va Perizi, Az Ba'aretz ». C'est-à-dire, on l'appelle Eretz Kenaan. Pourquoi? Eh bien, parce que cette terre-là a été conquise par les Cananéens. Et c'est vrai que ça va avoir une redondance. Alex, je te vois venir. Ça va avoir une redondance dans notre paracha et dans toute la Torah qu'on va appeler cette terre Eretz Kenaan. Donc, il semble qu'on la présente comme étant la terre de Canaan. Pourquoi? Parce qu'à l'époque de Moshe, à l'époque de Yoshua, jusqu'à ce que Yoshua fasse le travail, cette terre sera la terre des Canaanim. C'est eux qui vont la posséder concrètement. Et de malade, c'est vrai qu'elle, à la base, était celle de Shem, Ever. C'est vrai que Dieu l'a promis à Abraham, mais concrètement, tu comprends? Et alors, on s'en fiche qu'il n'y ait que Yosef qui l'appelle Eretz Ha'Ivrim. Il l'appelle Eretz Ha'Ivrim envers des gens qui sont censés comprendre son langage, sinon il parlerait en yiddish. Mais c'est l'air. Donc, en malasot, la Torah appelle cet endroit Eretz Ha'Ivrim. Et moi, je crois dans la Torah. Maintenant, est-ce que les Hébreux ont pu concrètement prendre possession de cette terre-là, la garder? Eh bien non, à un moment donné, les Cananéens sont arrivés, ils ont conquis cette terre de la main des Hébreux, et pendant toute la période de la Torah, c'est resté de la main des dans la main des Cananéens. Yoshua a conquis, mais dans le livre de Shoftim, on n'a pas réussi à mettre en place notre royauté, c'était donc redevenu Eretz Kenaan, puisqu'il était tout le temps là et il nous prenait la tête. Et ce n'est qu'à l'époque de David, finalement, que cette terre entièrement est devenue Eretz Israël, à Aretz, Shel Mamlechet Israël. Et donc à ce moment-là, on ne l'appelle plus Eretz Kenaan, on l'appelle à Aretz. Lorsque, le peuple juif part en exil, ça redevient la dimension de Eretz Kenaan, parce qu'on vient lui donner une dimension d'identité à cette terre, et on te dit, ne fais pas comme ceux qui étaient en terre de Canaan. Alors, Yaakov Touboul a écrit quelque chose, mais c'est une langue que je ne connais pas. Donc, Yaakov, si tu veux que je réponde à ta question, il faut que tu traduises ça en anglais, en français, en hébreu, en yiddish à la limite, mais pas en fluidiflu. Parce que je ne comprends pas le fluidiflu. Bekitzur, Abraham et sa famille sont donc à Ur Kasdim. Effectivement, ça vient de Cham, la terre de Kasdim. D'après le Midrash, Nimrod est le roi de Ur Kasdim. Effectivement, c'est les descendants de Cham. Bekitzur, donc l'histoire de la nation juive, si on peut dire, va commencer Bagalout et dans une sortie d'exil. Lama. Lama, eh bien, regardez, on nous dit Vayamot Aran Alpene Terach Aviv. Aran est mort devant la face de son père. Chazal vont dire donc du vivant de son père. Tous les matins, pourtant, quand tu lis Odou, il est marqué Eretz Kenaan. Donc David a écrit. Nachon, ce que je viens de t'expliquer, ce que je t'ai expliqué à toi dans notre discussion en privé, que cette terre a également une dimension de Knaaniyut, de Knia. Comment ça se fait que des Knaanim sont arrivés ici? Tu ne l'as pas posé cette question. Parce que Eretz Israël, c'est Eretz Kenaan. C'est-à-dire que pour pouvoir hériter de cette terre-là, il faut une dimension de Knia, de soumission à Kadosh Baruch. Bekitzur, donc, cette famille hébraïque voit un drame se passer. Aran meurt à Ur Kasdim. Le Midrash, on le connaît, l'histoire de la fournaise, que Nimrod, après qu'Abraham ait détruit les idoles, il a balancé, il a mis dans la fournaise, et il a demandé à son frère Aran, est-ce que tu es avec ton frère ou est-ce que tu es avec moi? Et Aran a répondu, en fonction de ce qui va se passer, si mon frère survit, je suis avec lui, sinon je suis avec toi. Abraham survit et Aran ne survit pas. Parce qu'il n'était pas aussi convaincu qu'eux. Mais sans rentrer dans le Midrash, il y a marqué noir sur blanc dans le verset. Vayamot Aran al pene terach aviv. Aran est mort du vivant de son père. Be eretz mola de tor, dans le pays de sa naissance. Be Ur Kasdim. C'est oui le nom de la ville, Ur Kasdim, mais c'est également la fournaise. Ur, c'est une fournaise en hébreu, des Chaldéens. Donc il n'y a même pas besoin du Midrash. C'est marqué noir sur blanc que, Aran est mort dans les fours crématoires des Chaldéens. Maintenant, comprenez-moi bien. Terach, c'est le représentant des Hébreux. Il a trois enfants. Terach, c'est l'ancien. Il est la génération d'avant. On va dire que le peuple hébraïque repose sur trois identités. Aran, Nahor et Avram. Un tiers de l'identité hébraïque meurt dans les fours crématoires. Vous comprenez que toute ressemblance avec un cas qu'on a connu récemment n'est pas fortuit et pas involontaire. la Torah, et particulièrement Sefer Bereshit, est un prototype de ce qui va arriver, un archétype plus, de ce qui va arriver dans l'histoire d'Israël. On voit ici que donc notre histoire commence avec la persécution en exil. Et donc, qu'est-ce qu'on fait suite à la persécution et la Shoah des Hébreux de l'époque? J'utilise le terme parce que vous avez compris l'analogie avec le nombre, un tiers de l'identité, face à 6 millions de Juifs qui ont été tués dans la Shoah, alors qu'il y avait 18 millions de Juifs à l'époque avant la Shoah. Un tiers de l'identité d'Israël a été massacré par les Allemands. Rabotai, de quoi est-on en train de parler? Comment Terach, le patriarche de la famille, va réagir à l'antisémitisme terrible auquel il doit faire face? Mais les amis, c'est pas compliqué. D'abord, il faut sauver les meubles. Vaikach Avram v'Nachor lahem nashim, shemeshet Avram Sarai v'shemeshet Nachor Milka. D'abord, Terach va marier les fils de déportés, les fils de ceux qui ont été les korbanotes, pas les korbanotes, mais ceux qui ont été les victimes de la Shoah. Et donc, eh bien, les enfants de Haran, les filles de Haran, Sarai et Milka, ils les marient respectivement à Avraham et Nahor. Et ensuite, eh bien, il faut prendre une grande décision. Le seul problème, c'est qu'avant la grande décision, on nous dit quelque chose. Vatei Sarai Akara Ein Lavalad. Sarai est stérile, elle n'a pas d'enfant. Waouh! Donc ça veut dire que Lot, qui est encore jeune, certainement, n'est pas marié, il n'est donc pas l'avenir. Haran est mort. Nahor est marié avec Milka. Et Avram n'a pas d'enfant. En d'autres termes, vers qui tous les espoirs de la famille hébraïque se tournent? Vers Nahor. Et à ce moment-là, on nous dit Vaïkar Terach et Avram Beno, Vet Lot Ben Haran Ben Beno, Vet Sarai Kalato, et Shet Avram Beno, Vaïtseou Itam Meurkazim Lalechet Arza Kenaan. Et là, une fois qu'on a réglé tout, les dernières directives, Terach dit on ne peut plus rester à Ur Kasdim, ils sont beaucoup trop antisémites là-bas, partons. Et où est-ce qu'ils veulent partir? Il prend toute sa famille et il va où? Beretz Kenaan! Pourquoi il va en Eretz Kenaan? Vous n'avez peut-être pas la carte du Moyen-Orient dans la tête, mais Ur Kasdim, c'est là. Kenaan, c'est là. Entre les deux, le Tigre, l'Euphrate, il y a 1000 kilomètres. Ce n'est pas la porte à côté hein, d'aller en Kenaan. Pourquoi il va arriver en Eretz Kenaan? Mais parce que, comme on a dit tout à l'heure, Terach est un Hébreu. Eretz Kenaan, c'est la terre des Hébreux. Il veut donc rentrer sur la terre de ses ancêtres. Comment on appelle ça aujourd'hui? Un Juif qui veut rentrer sur la terre de ses ancêtres, qui s'appelle dans la Torah Tzion, Sion. Eh bien, ça s'appelle quelqu'un qui est sioniste. Pashut, Terach est le premier sioniste. Mais attention! Quelles sont les raisons qui vont pousser Terach à quitter sa Ur Kasdim chérie? C'est la persécution et l'antisémitisme. Il écrit dans son journal à Paris, Terach, qu'il n'y a pas de choix, hop, qu'il n'y a pas de choix, qu'il est obligé de maintenant sauver le peuple d'Israël. Et donc, suite à la persécution, il va tenter d'avoir une charte auprès des grands de ce monde pour avoir l'accord d'installer les Juifs en terre d'Israël. Oui, vous entendez ici les paroles de Binyamin Zev Herzl. Terach, c'est le premier Herzl. Il veut partir, rentrer en Israël. Pourquoi? À cause de la persécution. Il faut trouver un refuge pour le peuple d'Israël. Il y a une autre partie de l'identité hébraïque qui est le rescapé de la Shoah. Lot, Sarai, Milka. C'est-à-dire qu'il y a une façon d'être juif, présentée par la Torah, c'est d'être sioniste pour des raisons sécuritaires. On va appeler ça un sioniste laïque. Il y a une autre partie de l'identité qui est l'identité, donc on a dit, de Lot, Sarai et Milka, qui sont les rescapés de l'antisémitisme. Ils vivent avec le traumatisme de la Shoah, ils vivent avec le traumatisme de la persécution, et c'est ce qui détermine une grande partie de leur identité. Toute ressemblance avec des Juifs qu'on pourrait connaître aujourd'hui est, encore une fois, absolument pas fortuite et pas involontaire. La troisième identité, c'est celle de Nahor. Et quand on regarde le verset de plus près, on nous dit que Terach a pris Avram, Lot, Sarah. Il est où Nahor? On ne nous dit pas que Terach a pris Nahor avec lui. Les amis, comment ça se fait? À Otaï, c'est très simple. Nahor, il est depuis longtemps déjà parti de Ur Kasdim. Nahor, il a compris avant tout le monde que c'était plus possible de vivre à Our Kasdim. Il a bien compris que la persécution là-bas, non. Et donc, il est parti avant la Shoah. Il est parti avant la Shoah, il est parti où ? À New York. Enfin, le New York de l'époque. Il est parti à Haran. Et il y est bien là-bas, à tel point qu'il va être élu maire de la ville. Ah non, mais ce n'est pas moi qui l'invente. Quand tu regardes, beaucoup plus tard, lorsque Eliezer partira à Haran, à Aram Naharaim, lorsqu'il partira à Aram Naharaim pour trouver une femme pour Yitzhak, eh bien, il ira, et la Torah nous présente la ville comme étant Ir Nahor, la ville de Nahor. Rabotai. Nahor est donc à Haran, ce qui explique d'ailleurs. On a dit, Terach, il veut partir où ? À la maison. On est à Israël, Beretz Kenan. Sauf que la Torah continue en disant, Vayavo at Haran, Vayeshvusham. Pourquoi Vayavo at Haran ? Pourquoi ils sont arrivés à Haran ? Bon, pourquoi ils sont arrivés à Haran ? C'est normal, c'est le chemin. On a dit, Our Kasdim, c'est là. Eret Israël, c'est là. Le plus simple, c'est de faire comme ça, mais ce n'est pas possible à l'époque, parce que tout ça, c'est un désert. Donc, on ne traverse pas le désert. On va monter de Our, le long du Jourdain, le long du Tigre et de l'Euphrate. Et on va arriver ici à Haran, faire une pause, et ensuite on va redescendre par les différents fleuves et la vallée du Jourdain. Donc c'est normal qu'ils passent par Haran. Mais Vayeshvusham, et ils vont rester là-bas, Lama. Et bien tout simplement parce que quand ils sont arrivés à Haran, ils ont rencontré Nahor. Ils ont dit, papa, enfin, tu es arrivé. On a eu tellement peur pour vous quand on a vu ce qui s'est passé là en Allemagne, Kasdim. On a eu tellement peur, on est tellement heureux que vous soyez là. Et là, j'imagine la discussion, j'imagine l'enlaçade, et j'imagine qu'ils ont dû commencer à dire, tu sais ce qui est arrivé à ton frère, dire oui, Haran, Yezichro Baruch, on va faire un kiddush cette semaine à la choule. Et puis après, qu'est-ce qu'il a dit, Nahor ? Il a dit à Terach, mais où vas-tu ? Je dis, je vais en Eretz Kenan, en Eretz Israël. Je vais à Tzion. Et là, je peux te dire, j'étais là, j'ai vu la scène. Nahor, il a mis la main sur le cœur, il a dit « Imeshkacher Yerushalayim Tishkach Yemini » Jérusalem, c'est un rêve extraordinaire. Mais enfin, papa, c'est pas la peine d'y aller tout de suite. Non, parce que tu comprends, en Israël, il y a des Cananéens. Ils vont jeter des pierres, ils vont faire des attentats, machin, mais tu rigoles ou quoi ? Vaut mieux s'installer ici, à Paris, New York, c'est très bien ici. Ici, on est toléré, ici, on a l'émancipation, ici, on est bien. On est bien, on occupe des postes importants dans l'administration. Qu'est-ce que tu veux aller prendre la tête à Haran ? Vayeshvusham. Nahor, c'est l'idéal cosmopolite. C'est-à-dire quoi l'idéal cosmopolite ? C'est cette identité qui dit, moi, je ne veux pas être un hébreu, je veux devenir un citoyen du monde. Et on en connaît aussi beaucoup. Ça a tellement bien marché que Nahor est un hébreu, on a dit, c'est le fils de Terach, tout ça. Mais son fils s'appelle déjà dans la Torah Betuel à Arami et son petit-fils Lavan à Arami. En d'autres termes, quand tu arrives là-bas dans cette idéologie-là, tu deviens un haranien. Tu deviens un Français. Des fois de confession israélite ou pas. Tu as perdu ton identité. Et il y a la quatrième identité, c'est celle d'Avram. Pour l'instant, il suit. Mais on connaît l'histoire. Car c'est dans cette identité-là, dans cette ambiance-là, que va Yomer Hashem et Avram Lech Lecha. Maintenant, comprenons bien. Ça fait combien de temps qu'il est à Haran ? Ça fait combien de temps qu'il est à Haran ? Il est à Haran depuis Oua Marloket. Soit depuis 72 ans, soit depuis 35 ans. Allez, l'homme est chané. Disons qu'on va aller au minimum. 35 ans, qu'à 40 ans, il a découvert Akadosh Baruch Hu. Nous, Shkoyer. L'histoire, il a cherché Dieu, le soleil, la lune, les nuages, tout ça. Disons, il y a deux avis, à 3 ans, 40 ans, l'homme chané. Ça fait donc 35 ans minimum qu'il a jeté l'idolâtrie. Et à Haran, il est donc déjà plus idolâtre. Et il fait quoi ? Dit le Rambam dans les lois sur la Avodah Zarah, qu'Avraham Avinu, il a créé une religion. Il a créé une religion monothéiste, cosmopolite, qui parle à tout le monde. Et il marchait très très bien, nous dit le Rambam, que Ukibet Salav Alafim Urvavot, des centaines de milliers d'adeptes dans la religion d'Avraham. Avraham, son métier, c'est d'être gourou. Mais bien sûr, c'est le maître de la religion abrahamienne, qui prône le Dieu unique et qui s'adresse à tout le monde. Abraham va donc créer la première grande religion monothéiste. Ça fait 35 ans qu'il bosse et il marche super bien. Et à ce moment-là, Yomer Hashem el Avram, Kol Mashé Asita, tout ce que tu as fait, c'est pas bien. Lech Lecha. Mazé Lech Lecha. Va tout seul. Lech, ça veut dire va-t'en, va-t'en. Lecha, c'est Ata. Tu pars tout seul sans toute ta clique. Bon, ta femme, tu peux la prendre, c'est ta femme, Ishtoki Goufo, Koltov. Mais pas tes élèves. Et pourquoi ? Tu comprends que si Abraham il fait une religion, il n'a pas besoin de territoire. La religion, elle est portative. Mais non, Dieu, il dit, va dans la terre que je vous montrerai. Pourquoi ? Parce que mon projet à moi, à Dieu, c'est pas que tu crées une religion. Et la vie sera les goy gadol. Je ferai de toi un grand peuple. Je veux créer une identité nationale et non pas une religion. Quelle est la différence ? Eh bien, la religion parle à l'individu. Elle amène l'individu à se sanctifier, alors que la nation parle au collectif. Le projet d'Akadosh Baruch Hu est de créer un peuple saint. Une identité qui se transmet dans la famille, de père en fils, de mère en fille. Akadosh Baruch Hu va clairement énoncer son projet à Avraham. Il veut faire de lui un peuple et non pas une religion. Le judaïsme n'a jamais été une religion. Religion ensemble des doctrines et des actes qui vont lier l'homme au divin, d'après ce qui a marqué dans Petit Robert. La religion, ce sont des actions. Comme il y a les cinq piliers fondamentaux de l'islam, il y a les dogmes fondamentaux du concile de Nicée pour les chrétiens. Celui qui rejette les piliers de l'islam n'est pas musulman, celui qui rejette le concile de Nicée n'est pas chrétien. Et pourtant, d'après la halakha, quelqu'un qui rejette les 613 mitzvot, il est quand même juif à 100% s'il est né juif. Parce qu'être un juif, ce n'est pas ce que tu fais, mais d'abord et avant tout, c'est ce que tu es. En d'autres termes, Akadosh Baruch Hu est en train d'expliquer à Abraham que ce n'est pas parce que Napoléon, il y a 200 ans, a donné l'émancipation aux juifs de France et leur a donné la citoyenneté, moyennant un abandon d'une grande partie de leur identité. C'est pas parce que depuis 200 ans, les Juifs en France sont citoyens français, et c'est très bien, la cavode, et ça a permis d'éviter une bonne partie des persécutions, quoique l'affaire Dreyfus a montré que ça n'a pas tellement marché, mais enfin bon. Ça ne veut pas dire que c'est mon identité profonde. Je ne crache pas sur l'identité française. J'ai grandi en France et j'ai kiffé ma vie en France. Et je remercie chaque instant la France, de m'avoir donné l'éducation que j'ai reçue, de m'avoir donné l'ouverture d'esprit que j'ai, de m'avoir donné la culture générale que j'ai, de m'avoir donné les valeurs de la République, qui sont des très belles valeurs. Donc, je n'ai rien à dire de négatif sur la France. Je la remercie, au contraire. Je dis simplement que sans lui manquer de respect, mon identité, ben, c'est pas, à la base, la France. Je la respecte, et tant que je suis chez elle, eh bien, je me comporte en adéquation avec elle, parce que je suis un hôte, je suis un invité, je suis toléré, et ça me fait plaisir. Donc, évidemment, que quand je vais chez quelqu'un, eh bien, je sais me comporter. Je ne vais pas imposer à quelqu'un d'autre mon mode de vie. C'est tout à fait normal. Mais mes ancêtres n'étaient pas gaulois. Je sais bien que tous les ancêtres de tous les Français n'étaient pas des gaulois, mais l'homme chaîne, tu as compris l'idée. C'est-à-dire que mes ancêtres à moi, il y a 2000 ans, ce n'était pas Astérix et Obélix. Et pourtant, je suis fan d'Astérix et Obélix. Mais mes ancêtres, ils étaient à Jérusalem, au Beth Amikdash, il y a 2000 ans. Et c'est de ça qu'on parle. L'identité hébraïque, l'identité d'Israël, c'est une nation. Abraham va avoir beaucoup de mal à accepter ce changement. Toute la paracha de Lech Lecha, toute la paracha, et on ne va pas pouvoir maintenant l'étudier en profondeur, mais toute la paracha de Lech Lecha vient pour expliquer à Abraham qu'il n'est plus une religion, mais qu'il devient un peuple. Il a énormément d'épreuves pour le comprendre. La plus grande d'entre elles, c'est que bah, t'es bien gentil, mais j'ai pas d'enfant. Tu veux que ce soit un peuple, il faut bien que ça se transmette de père en fils, j'ai pas d'enfant. Et il va donc prendre Agar, cette égyptienne, et avec elle, il va avoir Ishmaël. C'est fantastique. Parce que pour Abraham, il s'agit maintenant d'un compromis, car c'est son fils, mais ce n'est pas un fils particulier de l'identité familiale. J'ai eu ce fils avec l'Égypte. Et donc, je le vois comme étant l'idéal, le compromis entre mon projet cosmopolite et le projet divin de peuple. Et donc, Dieu lui dit, mais non, ça ne sera pas Ishmaël. Je t'ai déjà dit que Sarah, elle allait avoir un enfant et ça allait d'elle sortir la nation d'Israël. Et sauf que lorsque Akadosh Baruch Hu va enseigner à Abraham, il va lui dire textuellement, tu vas avoir un fils de Sarah. Abraham répond, Lui Ishmael Yichye Lefanecha. Que Ishmael vive devant toi. Même à ce moment-là, Abraham a du mal à le comprendre. Et donc, il va falloir attendre, concrètement, il va falloir attendre jusqu'à la fin de la paracha de Vayera de la semaine prochaine, pour que Abraham enfin accepte Yitzhak comme étant véritablement son fils et son successeur, pour faire de notre identité non pas une identité religieuse qui se transmet à celui qui voudrait bien être religieux, mais une identité nationale, familiale, qui se transmet depuis des générations, depuis 4000 ans, pour créer une identité collective qui arrive à la sainteté et qui peut enseigner au reste du monde comment, sans annuler son identité, eh bien on peut devenir quelqu'un qui a un message à donner à toute l'humanité. C'est ce que Dieu dit à Abraham, « Ve'esra l'egoy gadol, je ferai de toi un grand peuple, et grâce à cela, ve'nivrechu becha kol mishpechot ha'adama. » Et grâce à cela, pas seront bénis, parce que ça c'est « ve'it barechu, ve'nivrechu seront marcotés en toi toutes les familles de la terre. » Le marcotage, c'est ce qu'on fait en jardinage, quand on prend un plant de vigne et qu'on prend une branche et qu'on la remet dans le sol pour que de là ressorte quelque chose. Seront greffés à toi toutes les familles de la terre et pourront apprendre cet enseignement. Pourquoi Dieu a choisi Abraham ? Si, j'ai expliqué que Abraham fait partie de la dimension de la famille hébraïque. Ever est le successeur direct de Shem, que Shem est le successeur direct de Noach, que Noach, d'après sa filiation, est le successeur de Shet, qui lui-même est le successeur officiel de Adam Arishon. Pourquoi donc Dieu a choisi Abraham, parce qu'il est le successeur de Adam Arishon que Dieu a créé. Il n'a donc pas besoin d'un religieux, il a besoin d'un homme qui porte en lui l'identité abrahamique. Il a donc vu en lui le potentiel du fondateur d'un peuple. Il n'a pas vu en lui. Il est le fondateur du peuple. Il porte en lui l'identité de ce peuple. Qu'il le veuille ou qu'il ne veuille pas. Et Akadosh Baruch Hu va lui expliquer que l'identité et le dévoilement divin passent par le collectif, passent par Goy Kadosh. Tout ça nous amènera finalement dans le livre de Shemot à pouvoir dire « Ve'atem ti'uli mamlechet ko'anim ve'goy kadosh ». Vous serez pour moi une nation de prêtres et un peuple saint, c'est-à-dire que vous aurez comme rôle de faire la jonction entre moi et le reste des nations du monde. Comme les Kohanim font la jonction entre Akadosh Baruch Hu et le reste des Béné Israël. Shabbat Shalom, les Koulam!